10 questions à une émission de Fréquence Mistral en partenariat avec l'école de la deuxième chance des Alpes de Haute-Provence.
Anne Tategrin, directrice de l'IAP qui gère l'école de la deuxième chance sur le 04. C'est un dispositif qui est financé par l'État et la région, qui accompagne des jeunes de 16 à 25 ans dans leur projet d'insertion professionnelle. Parallèlement, il y a une remise à niveau sur les compétences socles, tout ce qui est raisonnement, compréhension. Et soit les jeunes après partent en centre de formation, soit ils vont vers l'emploi, le marché ordinaire du travail. Ils sont déscolarisés, soit ils ont arrêté le système traditionnel, soit ils ont fait des premières années de lycée pro ou centre de formation des apprentis. Ils sont issus de l'ensemble du département des Alpes de Haute-Provence. Et on a une école basée à Manosque qui accueille les jeunes du sud du département et une à Digne qui accueille les jeunes du nord du département. Ce partenariat a été initié pour permettre aux jeunes de travailler sur la confiance en soi, sur l'expression orale, savoir aussi communiquer assez facilement et prendre surtout de l'estime de soi.
Alors bonjour à tous et bienvenue donc dans notre studio à Fréquence Mistral Digne. Donc on a notre invité Monsieur Barry Souleymane et accompagné par donc ces trois jeunes de l'école de la deuxième chance à Digne-les-Bains. Je vais vous laisser vous présenter quand même nos trois jeunes avant de vous laisser poser les questions à votre invité.
Donc on fait partie de l'EDC. C'est une école de remise à niveau pour les jeunes qui ne trouvent pas d'apprentissage ou de travail ou d'école tout simplement. On fait des sorties pédagogiques et des activités qui nous permettent de trouver des métiers. On a des stages toutes les 2 ou 3 semaines. Et les cours sont répartis avec plusieurs matières. Bon, pas comme l'école normale, on n'a pas tout ce qui est histoire. C'est communication, raisonnement et projet professionnel.
Merci. Donc, c'est Lilou, 16 ans, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça.
Il y a donc à tes côtés Émilie. Donc, je laisse dire quelques mots.
Voilà, du coup, moi, c'est Émilie. Avec mon groupe, on est arrivé au mois de mars. On a participé à plusieurs sorties, telles que le musée Vasarely à Aix-en-Provence. Avec l'école de Manosque, c'était super sympa, on a appris plein de choses. Et après, j'ai également participé à la sortie de l'ONF, qui était, je sais plus où, mais c'était très sympathique. Il y avait un petit jeu, il fallait résoudre un petit meurtre, et il fallait réfléchir, c'était vraiment sympathique.
Un petit meurtre?
Oui, on l'a présenté comme ça, le jeu, donc voilà.
Donc une bonne idée.
C'est ça.
Et puis donc Joey.
Moi, je m'appelle Joey, j'ai 16 ans et je suis aussi à l'école de la deuxième chance, ça fait depuis le mois de mars je suis là-bas. Et voilà, j'ai pu faire un stage et j'ai fait aussi une sortie à Vasarely.
Voilà, donc aujourd'hui, c'est une grande première pour vous d'être dans ce studio. Vous n'avez jamais été en studio d'enregistrement, studio de radio? C'est votre première fois?
Oui, c'est notre première fois.
Et donc aujourd'hui, vous allez poser les 10 questions à votre invité. Et juste avant ça, j'ai envie de vous faire partager l'interview réalisée avec Frédéric Pellegrini pour rentrer en matière avec le lien avec l'école de la seconde chance. On l'écoute. Frédéric Pellegrini, vous êtes formateur à E2C, c'est comme ça qu'on dit?
Oui, c'est comme ça qu'on dit, école de la deuxième chance.
Alors aujourd'hui, ça va être une première pour Digne, avec 10 questions pour un invité. Pourquoi cet invité, Monsieur Barry Souleymane, et quel lien avec l'école de la deuxième chance?
Oui, donc l'invité aujourd'hui, c'est Barry Souleymane, qui s'occupe de l'association Burkina Éducation. Donc j'ai en charge au sein de l'école de la deuxième chance les projets pédagogiques et notamment la citoyenneté. Donc j'ai monté ce projet avec lui pour justement pour récolter en fait des olives et pour faire de l'huile d'olive pour que les jeunes puissent les vendre sur les marchés ou par des intermédiaires de partenaires.
Une huile d'olive dont ils ont assisté à la fabrication?
Oui, en fait, ils sont au mois de novembre, grâce à la fine Morello, M. Morello, qui est exploitant d'un moulin sur Volx. Donc, il nous a mis en place, enfin, il nous a passé une parcelle d'olivier. Donc, les jeunes ont pu aller cueillir. Et puis ensuite, on a assisté à toute la, au tout processus de la fabrication de l'huile d'olive. On a visité son moulin et puis il nous a remis, un mois plus tard, les 40 petites bouteilles de 50 centilitres.
Donc qui sont en, en vente pour venir en aide à l'association du Burkina Faso?
Oui, oui, elles sont en vente, notamment dans les ateliers d'application de l'IAP, la cafétéria et puis le restaurant de la Braise, au prix de 8 euros. Et ces bénéfices participeront enfin, à l'association Burkina Éducation.
Donc c'est ce genre de projet citoyen que vous menez à l'école de la Deuxième Chance régulièrement?
Oui, oui, entre autres, je m'occupe aussi de la partie culturelle, puis les sorties, les visites en entreprise. Donc oui, ça en fait partie. Voilà. Dernièrement, nous sommes allés visiter le musée Vasarely. En même temps, on a visité aussi Aix-en-Provence. Voilà, et donc on enchaîne comme ça. Il y a eu la grotte Cosquer.
Merci.
Merci à vous.
Voilà, donc c'était Frédéric Pellegrini qui est avec nous aussi dans le studio, mais du côté de la caméra cette fois. Alors, je vais laisser Lilou poser les questions. D'abord, bienvenue donc à l'invité, Monsieur Barry Souleymane. Vous êtes responsable de la MEX à Manosque, c'est-à-dire la maison d'enfants à caractère social.
C'est exactement ça.
Voilà, donc je vous laisse répondre aux questions de Lilou.
Déjà, bonjour.
Bonjour.
La première question, c'est quel est votre métier?
Donc, je vous remercie de l'invitation, donc, de l'occasion que vous m'offrez de parler du Burkina Éducation. Donc, quel est mon métier? Bon, actuellement, je suis donc, responsable de la MEX, donc, la Maison d'enfants à caractère social de Manosque, qui comprend deux services, donc l'internat et les services MNA, mineurs non accompagnés. Donc, là, c'est mon métier, mais bon, c'est... Ça me donne l'occasion de parler un peu de mon parcours parce que c'est, je suis issu d'un parcours atypique. Atypique parce que je suis originaire du Burkina Faso, donc j'ai une formation initiale en histoire. J'ai été professeur d'histoire là-bas pendant une dizaine d'années. Et dans les années, il y a 20 ans, je suis venu en France pour me former en sciences de l'éducation. À l'université d'Aix-Marseille. Donc, à la fin de mes études, donc, je me suis investi dans le domaine du social. Donc, là, actuellement, donc, je suis responsable, comme je disais, de la MEX, qui accueille des enfants de toute la région PACA, donc des 6 départements qui couvrent la région PACA.
D'accord. Donc. La deuxième question, c'était quel est votre parcours, mais vous nous l'avez expliqué. Donc, pour poursuivre, qu'est-ce qui vous a poussé à créer Burkina Éducation?
Donc, qu'est-ce qui m'a poussé à créer Burkina Éducation? Donc, c'est, pour répondre à cette question, donc, très rapidement, hein, donc, je vais vous faire, pour comprendre le sens de notre démarche, c'est important de faire un bref résumé en fait, du système éducatif au Burkina Faso. Donc, pour situer le Burkina Faso, hein, pour ceux qui ne savent pas, donc on est un pays continental enclavé. C'est un pays qui est à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest, hein, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, sans débouché maritime. Et ce pays, il est classé parmi les... Moi, j'aime pas trop ces termes. Hein, donc, les experts des Nations Unies classent le Burkina Faso parmi les pays les plus pauvres de la Terre, donc classé officiellement PPTE, c'est-à-dire pays pauvre, très endetté. Donc, pour comprendre le sens de notre démarche, il est important de se rappeler que donc, nous, le Burkina Faso, c'est un pays qui a, à l'instar de beaucoup de pays d'Afrique, hein, donc c'est un pays qui a connu la domination coloniale. Donc, on a été colonisé par la France. Pendant la colonisation, donc, quand il y a eu l'occupation coloniale, la France avait besoin d'administrer donc, les territoires occupés. Et donc, pour cela, il fallait des auxiliaires de l'administration coloniale Donc il fallait former des Africains pour pouvoir donc jouer le rôle de courroie de transmission de l'autorité coloniale, puisque les Africains ne parlent pas français et les Français aussi ne parlent pas les langues africaines. Donc c'est pour vous dire que l'école a été introduite en Afrique là pendant la période coloniale. C'est sous la pression du besoin. Donc à l'origine, l'école a été une institution masculine. Pourquoi ? Parce qu'il fallait d'abord donc sélectionner les jeunes qui devaient être instruits. Parce que bon, c'était l'élément d'éducation contre destruction qu'on donnait aux Africains. Donc, puisque l'école est une arme à double tranchant, donc il ne fallait pas que l'école participe à l'éveil des consciences. Donc c'est juste, on avait besoin de former des interprètes pour pouvoir donc traduire donc le français dans les langues africaines. Donc à l'origine, ce sont d'abord les fils de chefs, les fils de notables qui ont été choisis pour donc aller à l'école. Il fallait faire de telle sorte que l'école ne devienne pas un instrument de perturbation sociale. Donc à l'origine, l'école était en Afrique une institution masculine. Aux indépendances dans les années 60, donc les gouvernements africains, donc celui du Burkina Faso, donc le gouvernement a travaillé pour changer cette situation. Il y avait un retard donc historique, si on peut parler ainsi, au niveau de comment on appelle ça, une disparité entre les sexes, puisque ben, les filles étaient exclues de l'école. Donc, dans les années 60, donc il a fallu travailler à rattraper ce retard-là. Et pourquoi justement ça a pris du temps ? Ça a pris du temps parce que simplement, il y a, donc, au niveau de l'école, il y a plusieurs raisons qui font que, bien sûr, les filles, donc je viens de parler des raisons historiques, mais les filles, même si elles ont le choix, elles ont la possibilité de venir à l'école quand c'est possible, ben, elles sont confrontées à d'autres déterminants, à d'autres facteurs, donc moi j'ai parlé des facteurs socio-culturels qui les empêchent d'avoir des résultats donc probants. En fait, c'est au titre des facteurs socio-culturels, on peut citer le statut de la femme. En Afrique aujourd'hui, même jusqu'à présent, il coexiste deux types d'éducation. Il y a l'éducation moderne, donc dispensée par l'école, et il y a l'éducation traditionnelle. Et donc, dans les sociétés africaines, la plupart du temps, on éduque les filles dans la sphère traditionnelle. Donc, cela est lié au statut de la femme. Donc, on s'est dit, tout un pan de l'éducation traditionnelle est consacré justement à l'acquisition des comportements liés à ce statut-là, le statut de la femme, c'est-à-dire que les femmes elles doivent être de bonnes ménagères, de bonnes épouses et de bonnes mères. Donc, pour me résumer, donc à l'origine, il y a eu donc un retard historique au niveau de la scolarisation. Donc déjà, donc l'école. Tous les enfants africains et burkinabés ne vont pas à l'école. Donc, et quand l'école est possible, les gens ils font le choix d'envoyer le garçon plutôt que la femme. Donc, comme je disais, on veut maintenir en fait la femme dans la tradition, donc qui est une façon de la maintenir sous la domination de l'homme. Parce que la femme qui va à l'école ne va plus accepter la polygamie, ne va plus accepter le mariage forcé, le leviat, donc tout ce qui est lié à la tradition. Sans oublier qu'aussi, il peut avoir aussi le fait de rester longtemps à l'école, puisque les mariages précoces, etc. Donc il y a des risques de grossesse et donc finalement de diminution du prix de la dot. Donc tous ces éléments-là font que, dans les années 60, le système scolaire burkinabé était l'un des moins performants. Les gouvernements successifs, depuis les années 60, ont travaillé, ça il faut le reconnaître et le souligner, à réduire cet écart-là. Donc en donnant des bourses aux filles, en incitant bien sûr les leaders communautaires à scolariser les filles, Mais vous savez, ce qui est de la mentalité, ce qui ressort de la mentalité, ça change le plus lentement possible. Donc, les efforts ont été faits vraiment dans les années 2000 pour rattraper donc le retard au niveau de la scolarisation des filles.
Depuis seulement les années 2000.
Non, c'est aux années 2000 qu'on sentait que donc les efforts consentis depuis les indépendances, donc ces efforts-là ont commencé à produire des fruits. Mmh. Voilà. Donc l'écart a commencé à se réduire, mais le système scolaire burkinabé souffre aussi d'un... comment on appelle ça? Si vous voulez, il y a plusieurs... on peut résumer en trois gros groupes. Un problème d'accès, un problème de maintien, un problème de qualité de l'enseignement. Voilà. Donc, à cela s'ajoutent aussi les disparités régionales. Donc, soit en ville, donc l'offre scolaire est disponible. Par contre, dans les villages, il y a des villages qui manquent d'écoles. Mais les gouvernements successifs ont vraiment fourni, ont consenti d'énormes efforts pour justement donc, scolariser les enfants. Comme dit l'adage, hein, ben, un enfant qui ne va pas à l'école, c'est un peuple qui ne grandit pas. Donc, ils ont pris ce problème à bras le corps. Et juste donc, dans les années 2000, on a commencé vraiment à avoir les fruits de ces efforts-là. Voilà. Donc, malheureusement, depuis, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, depuis les années 2015, le Burkina est victime d'attaques terroristes. Et donc, tous ces efforts qui ont été consentis sont en train d'être réduits à néant parce que, justement, donc, des groupes terroristes ont envahi le nord du pays, obligeant les populations donc, à fuir donc leur village pour venir s'installer dans les grandes villes. Bon, les grandes villes, donc le Burkina Faso, la capitale, c'est Ouagadougou. Donc, ils viennent à Ouagadougou, à Aiguilla. Donc, c'est les grandes villes. Donc aujourd'hui, officiellement, le Burkina compte pratiquement 2 millions de déplacés internes. On les appelle population déplacée interne, donc PDI. Donc étant moi-même donc, un transfuge de l'éducation nationale, donc je ne pouvais pas rester insensible à cette question-là. D'où justement la création d'une association pour effectivement apporter notre pierre justement donc, ce qui se passe au pays. On ne pouvait pas rester insensible, c'est une goutte d'eau dans la mer, mais il fallait faire quelque chose. Parce que oui, voilà.
On va poursuivre justement par rapport à votre association. Oui. C'est Émeline qui pose les questions suivantes. Émilie, pardon.
Du coup, vous avez créé votre association en quelle année?
Donc, l'association, elle est très jeune. Hein. Elle a été créée donc, en avril 2022, donc, face à au drame qui se joue là-bas. Hein, puisque, bon, c'est pas très médiatisé. Donc, du coup, j'ai fait une mission justement sur le terrain pour aller voir donc, ce qui se passe réellement donc, dans les camps de déplacés internes. Donc, je suis resté une semaine là-bas pour évaluer, donc pour faire le diagnostic du terrain. Donc, quand je suis revenu, donc on a créé l'association. Donc, officiellement, on a été déclaré en fait le 16 juin 2022. Donc, c'est une association qui a à peine un an. Voilà.
D'accord. Et quelles sont les différentes actions menées par le Burkina Éducation?
Donc, comme je disais, donc c'est une jeune association. Hein. Donc, au départ, on était parti pour, apporter donc un soutien donc à la scolarisation des enfants, donc des déplacés internes, des PDI. Une fois sur place, je me suis rendu compte que les besoins étaient immenses et que bon, compte tenu de nos ressources limitées, donc il fallait quand même cibler et faire une action qui est pertinente. Donc, on a décidé d'agir sur donc, un groupe donc, de PDI, de population déplacée interne, de trois villages qui se sont regroupés dans un camp qu'on appelle Panzani. Et donc, pendant trois mois, quand on a mené une action avec le district des Alpes de football, donc depuis le mois d'octobre à décembre, donc en lien, en partenariat avec le district des Alpes de football, donc les différents présidents de clubs de football donc, des Alpes, donc ont collecter soit des denrées alimentaires, des habits, donc des équipements de sport, donc qu'on a pu envoyer au Burkina Faso. Voilà. Et donc la deuxième action qu'on est en train de mener, c'est justement avec l'école de la deuxième chance.
Est-ce que vous aidez seulement les enfants ?
Oui, la question, elle est effectivement, au départ, on était parti en se disant, ben oui, les enfants ne vont pas à l'école, etc. Et une fois que je suis arrivé sur le terrain, on s'est rendu compte que, en fait, le problème est très, très profond. Le problème est très, très profond parce que, donc, les populations déplacées internes ont subi des traumatismes. En fait, les groupes djihadistes font irruption dans les villages, donc ils massacrent souvent les hommes. Donc, ils laissent que les femmes et les enfants. Et donc, ces femmes et enfants qui sont donc apeurés, traumatisés, donc, ont convergé vers les grands centres urbains et sont justement dans les camps de déplacés. L'État donc, prend en charge ces déplacés internes. L'État, en tout cas, fait ce qu'il peut pour pouvoir les aider. Mais il y a un problème fondamental que j'ai remarqué quand j'étais sur le terrain. Donc, on ne peut pas scolariser ces enfants-là sans d'abord une prise en charge psychologique. Donc, c'est des enfants qui ont besoin d'un accompagnement psychologique avant toute forme de scolarisation. Donc, tant qu'on ne soigne pas ces enfants-là, tant qu'on ne les aide pas, tant qu'on ne les accompagne pas sur le plan psychologique, et les mères aussi, on ne peut pas parler de scolarisation. Même si l'État avait les moyens, imaginez, même si l'État avait les moyens de construire des écoles pour se déplacer internes, donc des enfants qui ont subi des traumatismes, on ne peut pas dire, ben, on les scolarise comme si rien n'était. Voilà, donc c'est pas seulement les enfants qu'il faut aider, il faut surtout aussi aider donc les mamans donc qui se retrouvent aujourd'hui donc sans certaines mères se retrouvent sans leur mari, donc il faut accompagner justement ces mamans là donc ces mères de famille à s'humaniser à ce que justement les enfants qui ont subi ces traumatismes là retrouvent leur place d'enfant. Sinon, c'est un vain mot de parler de scolarisation. Et même, l'État a pris des mesures en se disant, ben, ils sont dans les déplacés internes sont à la lisière des grandes villes, on va les intégrer dans les écoles donc, environnantes. Déjà, ce qu'il faut savoir, au Burkina Faso, les écoles ont des effectifs pléthoriques. Donc, il y a des écoles qui ont entre 70 et 100 élèves par classe. Et donc, du coup, si on intègre encore ces enfants-là dans ces classes déjà surchargées, donc, avec les traumatismes qu'ils ont subis, donc, évaluez vous-même les difficultés.
Donc, est-ce que vous avez envie de réagir par rapport à ce que vous venez d'entendre avant de poser les questions suivantes ? 110 enfants par classe, par rapport à vous qui êtes 4-5 en ce moment ?
Oh, ça fait beaucoup, en fait.
Bon, je vous laisse continuer, donc... Joey.
Du coup, est-ce qu'il arrive que vous vous déplacez au Burkina Faso pour l'association ?
Oui, effectivement. Bon, en 2022, je me suis déplacé deux fois. Et là, je m'apprête à aller pendant l'été. Donc, on a des relais sur place, hein, donc c'est important d'aller voir.
D'accord. Et pourquoi y a-t-il des camps de réfugiés au Burkina Faso ?
Bon, camp de réfugiés, donc je ne parlerai pas officiellement de réfugiés, mais c'est des déplacés. Bon, là, c'est encore plus dramatique à mon avis, puisque ce sont des populations qui sont réfugiées dans leur propre pays. Généralement, quand on parle de le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, quand on parle de réfugiés, donc ce sont des gens qui quittent un pays pour un autre. Là, on est dans une situation où c'est des populations qui sont dans leur propre pays, et qui sont réfugiés, donc c'est encore plus dramatique. Et officiellement aujourd'hui, bon, c'est les chiffres officiels qui le disent, hein, on tourne autour de 2 millions de déplacés internes, quoi. Parce qu'on est dans un contexte de guerre asymétrique, c'est-à-dire que en fait, l'ennemi n'est pas visible. Donc c'est des groupes comme ça qui débarquent dans un village et qui tirent à l'aveuglette sur les gens. Donc, ben, l'armée est complètement, pas impuissante, mais elle ne peut pas couvrir tout le territoire national, peut pas admettre un militaire derrière chaque Burkinabé, donc c'est un peu très compliqué, quoi. C'est... Voilà.
Et est-ce que vous avez des partenaires pour vous aider ?
Oui, des partenaires, oui, on a des partenaires locaux, on essaie aussi ici en Europe, aussi en France, ici de développer des partenaires. Par exemple, en France, donc, je travaille en partenariat avec une association dans laquelle je suis partie prenante qui s'appelle Africa France Solidaire, donc, qui fait des actions du domaine de la solidarité internationale. Donc il y a Africa France Solidaire. Au Burkina Faso, donc, on a Burkina Éducation, donc au Burkina Faso, qui est dirigé par un prof de sociologie qui est donc au cœur justement de ces préoccupations-là. Donc il y a la mairie de Ouagadougou, il y a le ministère de l'Éducation nationale. Donc à notre sein, donc, il y a des inspecteurs de l'éducation nationale qui sont à la retraite, qui travaillent. Donc on a un réseau de partenaires.
Et du coup, pour finir, comment pouvons-nous aider l'association ?
Donc, vous pouvez aider l'association de plusieurs manières. Le fait que déjà vous en parlez. Donc voilà, il faut qu'on soit très modeste et très humble. Donc oui, effectivement, le fait de participer justement par l'action de l'huile d'olive, c'est pas ça qui va sauver le Burkina Faso, mais ça permettra au moins de sensibiliser autour de vous à cette question. Et l'idée de départ même, pourquoi j'ai travaillé à l'école de la deuxième chance, c'est parti justement d'une intervention que j'ai eu à faire il y a quelques mois avec l'équipe de l'EDC de Manosque, donc où j'ai échangé justement avec les jeunes donc sur les questions de développement, de sous-développement, etc. Et donc du coup, les jeunes ont été sensibles à cette question. Donc le fait d'en parler déjà, c'est pour moi, c'est une satisfaction. Donc le fait de donner, c'est hyper important. Voilà. Donc,
d'accord. Merci du coup.
Merci donc à ces trois jeunes de l'école de la deuxième chance de Digne. Donc hein, vous êtes et à Monsieur donc Barry Souleymane. On rappelle le nom de votre association, c'est Burkina Éducation. Oui. Est-ce qu'il y a un site, une possibilité d'adhésion à cette association où on peut aider?
Oui, effectivement, donc on a donc un site en construction. Hein, donc c'est d'ailleurs c'est Frère Pellegrini hein, qui est chargé de finaliser le site de l'association. Comme je vous disais, elle est jeune, hein, elle n'a même pas un an. Donc oui, effectivement, nous sommes ouverts et à toutes sortes de contributions pour aider à cette cause.
Je vous remercie. Est-ce que Lilou, Émilie et Joey, vous avez des questions par rapport à ce que vous venez d'apprendre, peut-être, sur la situation au Burkina Faso, ne serait-ce que, bon, évidemment, les attaques terroristes, ça va être plutôt difficile, mais par rapport à l'éducation, simplement l'éducation et ces traditions, l'éducation traditionnelle si ancrée dans certains pays où les filles n'ont pas accès à l'éducation. Est-ce que ça vous choque?
Est-ce que ça vous choque? C'est impossible qu'il y ait une fille qui rentre dans le système scolaire.
Non, c'est pas ce que j'ai dit. En fait, je vous ai expliqué que en fait, le système scolaire burkinabé souffrait de plusieurs difficultés. Donc, il y a le problème de l'accès à l'école, le problème de maintien à l'école, donc, et le problème aussi de disparité entre les sexes. Et donc, je vous expliquais que cette disparité, cette différence de sexe-là, elle est historique parce que simplement, donc, les gens préfèrent investir sur le garçon que d'investir sur une fille qui, selon le statut de la femme dans l'éducation traditionnelle, donc, là, elle est étrangère, la femme. Elle est étrangère dans sa famille d'origine parce que, simplement, elle est appelée à prendre un mari.
C'est
donc à quitter la famille d'origine, sa famille d'origine. Et une fois qu'elle arrive dans la famille de son mari, elle est aussi étrangère, donc elle est doublement étrangère parce qu'elle peut aussi divorcer et aller ailleurs. Donc, voilà. Donc, il y a les raisons historiques. Donc, la colonisation qui explique que, voilà, à l'origine, les femmes étaient exclues de l'école. Et à l'indépendance, les facteurs sociaux, culturels ont fait que les filles ont été défavorisées. Donc, face à cela, les gouvernements, donc burkinabés successifs depuis les indépendances, ont consenti d'énormes efforts pour effectivement rattraper le retard. Et les résultats ont commencé à être probants autour des années 2000, où l'écart a commencé à se réduire, où les gens ont compris justement qu'il fallait investir, qu'il fallait pousser les filles à aller à l'école, parce que effectivement, ben, comme dit l'adage, hein, quand tu éduques un garçon, tu éduques un individu, tu éduques une fille, tu éduques une nation. Parce qu'une mère qui est scolarisée, elle va souvent, elle va aider ses enfants pour faire les devoirs, pour etc. Donc, les gouvernements burkinabés ont pris à bras le corps ce problème-là. Et donc, du coup, dans les années 2000, donc pendant de 60 à 2000, les gouvernements ont tout fait pour attraper le retard. Malheureusement, avec donc la situation actuelle, avec l'invasion terroriste, avec les attaques terroristes, tous ces efforts sont en train d'être réduits à néant. Et moi, étant de l'éducation nationale, donc j'ai fait mes études en sciences de l'éducation à Aix, donc je ne pouvais pas rester donc insensible à cette question-là. Donc tous les efforts sont en train d'être anéantis. Et aujourd'hui, donc face à cette situation, ce sont les femmes et les enfants qui sont les premières victimes. Voilà. Donc c'est hyper important de savoir que il y avait un retard historique qui a été plus ou moins rattrapé et qui aujourd'hui est complètement anéanti par cette situation cette situation dramatique que nous vivons, quoi.
Je vous remercie tous pour cette première Adigne sur Fréquence Mistral. Notre première, donc 10 questions à un invité. Donc merci à Barry Souleyman, Joey, Émilie, c'est ça, et Lilou. Et est-ce que vous avez envie de dire quelque chose par rapport à cette aventure pour aujourd'hui? Si vous avez trouvé, appris des choses et si vous avez envie de partager.
Ben, je trouvais que c'était bien. J'ai bien aimé. Ça m'a fait apprendre des choses.
Voilà. Émilie, Émilie, je vous ai vu prendre des notes, donc j'imagine que ça vous a beaucoup intéressé.
Bah moi, je voulais remercier Barry de nous avoir appris beaucoup de choses, parce que c'est assez important.
Ça va être plaisir.
Voilà. Lilou,
J'étais stressée au départ, mais au final, ça a été. C'était pas si compliqué que ça, et oui, j'ai appris plein de choses intéressantes. Donc pour une première, c'était sympa.
Avant de vous quitter, on va parler donc de cette vidéo sur cette mission avec l'huile d'olive. Vidéo que vous pourrez retrouver sur le Facebook, l'Instagram et LinkedIn de l'école de la deuxième chance. Voilà, merci à tous. Et puis on se retrouve dans 2 mois avec un autre groupe de l'école de la deuxième chance à Digne. Et le mois prochain, ce sera à Manosque. Merci. Et on avait prévu donc deux, trois chansons pour couper pour faire une respiration, mais il n'y a pas eu besoin. Donc, je vous propose d'écouter. On commence par Jules Superstar, choisi par Joey. Merci à tous. Au revoir.
Qui fume du 3X en fumette, mais je vois tout sous les lunettes d'un Matrix. On va me serrer dans mon passeport BX. On boit la potion comme Astérix. J'lève la moto, j'prends des risques. Du Prado jusqu'à l'obélisque. On fait la signe Joule sur la Pix. Rapta, ça finit dans des Rix. Y'a ta team Joule dans la zone. Marseille jusqu'à Paris. Ils font la guerre pour des streams. Moi j'sors mes sans même pas j'le mix. J'prends un autre quand on me fixe. J'me fais des films comme dans Netflix. J'ai de l'espoir, la piscine, le soleil quand j'ouvre les stars. Faut que je m'en sorte.
sans faire la superstar. Sans faire la superstar. En stress quand je vois les flics, pourtant j'ai pas de Glock. En pyjama la mise, je peux attacher avec les crocs. Sur pépé j'ai l'âge de Marie, j'ai plein de soucis sous le bob. C'est la guerre dans le bloc, y'a la queue, y'a deux gadgets qui jobent. 100K sur un T-Max, tout le bénef sur Winamax. 100S vers la relax, ça se voit déjà bleu en terrasse. 100K sur un T-Max, tout le bénef sur Winamax. 100S vers la relax, ça se voit déjà bleu en terrasse. La belle est verte comme mon KX. Mes potes ils fument du 3X. En fumette mais j'vois tout. Sous les lunettes d'un Matrix. On va me serrer dans mon passeport BX. On boit la potion comme Astérix. J'lève la moto, j'prends des risques. Du Prado jusqu'à l'obélisque. On fait le signe Joule sur la Pix. Rapta ça finit dans des Rix. Y'a de la team Joule dans la zone. Marseille jusqu'à Paris. Ils font la guerre pour des streams. Moi j'sors un son même pas j'le mix. J'pars à nos camps on me fixe. J'me fais des films comme dans Netflix. J'ai de l'espoir, la piscine, le soleil quand j'ouvre les stores. Faut que je m'en sorte sans faire la superstar. Sans faire la superstar. Ce qui te lâche pas, ça c'est les hommes. Des mères qui pleurent, ça c'est les armes. Me filme pas quand je fais l'aumône. Au vélodrome, je fais la c'est les auges. Ce qui te lâche pas, ça c'est les hommes. Des mères qui pleurent, ça c'est les armes. Me filme pas quand je fais l'aumône. Au vélodrome, je fais la c'est les auges. Je job. Maman, papa, je job. J'arrête pas. Je job. J'arrête pas. Maman, papa, je job. Sans cas sur un T-Max, tout le bénef sur Winamax. Ça espère la relax, ça se voit déjà bleu en terrasse. Sans cas sur un T-Max, tout le bénef sur Winamax. Ça espère la relax, ça se voit déjà bleu en terrasse. La belle est verte comme mon KX. Mes potes ils fument du 3X. En fumette mais j'vois tout. Sous les lunettes d'un Matrix. On va me faire dans mon passeport BX. On boit la potion comme Astérix. J'lève la moto, j'prends des risques. Du Prado jusqu'à l'obélisque. On fait la signe Joule sur la Pix. Rapta ça finit dans des Rix. Y'a de la team Joule dans la zone. Marseille jusqu'à Paris. Ils font la guerre pour des streams. Moi j'sors un son même pas j'le mix. J'pars à nos camps on me fixe. J'me fais des films comme dans Netflix.
comme un orage qui gronde, qui gronde. Je pense à toi à chaque seconde, comme la pluie sur la fenêtre. Tu me dis oui et puis peut-être, mais moi je t'aime pour la première fois. Mais moi je t'aime, je ne veux que toi. Premier amour, au premier baiser, je suis ensorcelée. Premier amour, je t'aime et pourtant en un coup de vent. Premier amour, déjà terminé, me laisse le cœur baisser. Je dois t'oublier. Comme un éclair dans la nuit, je voulais te plaire pour toute la vie. Je t'aime encore, je t'aime à mort, mais y'a que toi que j'aime.